Robert, j'appelle de Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, locataire oriental. Je réfute totalement ce que tu dis.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Le nouveau, comme je l'ai dit, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a annoncé vendredi 2 juillet au Conseil des ministres que plusieurs cas litigés ont été décelés dans les fichiers des références de l'administration publique. Il s'agit entre autres des cas des doublons, des cumulards, d'agents fictifs et autres détenteurs de faux matricules qui font perdre au trésor public plus ou moins 20 millions de dollars par mois, soit environ 240 millions de dollars américains par an. Que faut-il pour mettre fin à cette situation qui perdure depuis des décennies malgré plusieurs initiatives de contrôle et identification? Vous pouvez participer à cette émission en échange avec nous et avec l'ensemble des internautes sur www.radiocapi.net ou encore à l'étranger en composant les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969. Vous avez également la possibilité d'interagir sur notre page Facebook. Pierrot et Lamèji réalise cette émission, mise en onde par Jean-Noël Mokondo et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo, Labung, Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir d'accueillir en ligne Guy Kikuku qui est avec nous. Monsieur Kikuku, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes intersyndical de la fonction publique. Alors, comment réagissez-vous par rapport à cette démarche du ministre?
Oui, intersyndical national du Congo, plutôt. La démarche du ministre, nous la saluons, mais nous pensons que cette étape-là est déjà dépassée, l'étape de dénoncer. Ce qu'il faut maintenant, c'est de dire qu'est-ce qu'il a préconisé, parce que la maladie est connue. Le problème est connu, ce qu'il faut, c'est prescrire et donner la solution. Et en ce qui nous concerne, les bancs syndicales, intersyndicales, nous avons toujours dit qu'il fallait, il y a des solutions qui ont été même proposées dans tous les rapports, notamment bloquer d'abord les comptes de toutes les personnes qui sont dans les doublons, il faut les bloquer, tous leurs comptes, leurs noms, il faut bloquer cela. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour des cas de personnes non sûres, l'argent doit être aussi bloqué. Et lorsqu'on va bloquer, chacun va venir faire la demande pour demander, réclamer. C'est alors qu'on va traiter au cas par cas. Mais au demeurant, il faut un fichier unique. Les fichiers-là existent. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué que là où ils sont en train de chercher des solutions pendant une année, pendant 6 mois, en 2-3 jours, l'ordinateur peut donner la solution qu'ils sont en train de chercher. Donc nous pensons qu'il n'y a pas vraiment une volonté manifeste. Plutôt, chacun veut y ajouter du sien, c'est-à-dire ajouter un peu de temps, ajouter un peu de ses hommes, ajouter tout ça. Et ça, ce n'est pas une façon de faire évoluer un pays. C'est ridicule pour un gouvernement de faire des réformes pendant 16 ans sans pouvoir arriver à une solution. Donc, en d'autres mots, quand les gens entendent ça, ils croiront que dans ce pays-là, les gens ne sont pas capables de donner des solutions aux problèmes qui sont résolus pourtant partout ailleurs.
Mais alors, Monsieur Guy Kikuku, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la bancarisation n'était-elle pas une solution? Parce que ça n'a pas résolu ces problèmes.
Non, justement, la bancarisation était une des solutions. Ce n'était pas toute la solution, c'était une étape. La bancarisation, c'était une étape, mais on devait poursuivre les et encore que la bancarisation, c'est forcément les grandes villes, Lubumbashi, Kinshasa. Mm-hmm. Vous savez que dans les fonds, c'est Caritas qui s'en occupe, ou même dans d'autres cas, ce sont des églises ou des ONG qui s'occupent de ça. Donc la bancarisation, c'est pas toute la République. Ce n'était pas du tout une solution dans la mesure où les banques elles-mêmes ne sont pas partout. Et vous le savez, l'État aussi le sait très bien. Donc on l'a fait pour les grandes villes, mais pour les autres entités, ce n'était pas fait. Et ce n'était pas ça la solution.
Mais alors, les contrôles biométriques qu'on organise tout le temps au niveau de la fonction publique, et lui aussi n'a pas été une solution.
Non, justement, dans ces contrôles-là, le vrai problème, c'est quoi? Les gens qui font partie du problème on les envoie pour régler les problèmes. Est-ce que vous trouvez quelqu'un qui fait partie du problème, donner la solution au problème que lui-même
a créé? Le pyromane qui devient sapeur-pompier.
Non, c'est impossible. Parce qu'on doit prendre... Est-ce qu'on ne peut pas prendre des experts, des gens extérieurs, des audits extérieurs, faire ce travail, ils ne vont pas prendre 6 mois. On va régler ce problème. Donc, c'est la façon d'opérer. C'est manque d'une volonté vraiment politique pour régler. Parce que tous sont dedans. Les banques sont entrées dans ces magouilles, les ministres dans ces magouilles, les secrétaires généraux dans ces magouilles, certains fonctionnaires, même certaines personnes qui ont été impliquées. Tous, chacun y a mené du sien là-dedans et l'argent est partagé.
Donc, on envoie l'argent à l'extérieur,
on fait l'opération retour, ça revient ici, tout le monde se retrouve. Donc, il n'y a pas une ferme volonté de régler ce problème.
Donc, si je comprends bien, cette démarche du ministre, c'est encore une autre tentative de bagoui.
Bon, en tout cas, je ne sais pas le dire, mais sauf que moi, je ne vois pas le ministre qui veut régler un problème d'abord. Alerter tout le monde alors qu'il devait le faire dans le secret pour que ceux qui sont dans le magoui ne sont pas alertés. Il les a alertés et puis
les voleurs vont se terrer, ils vont se cacher quelque part parce que comme un policier qui veut faire une action musclée,
c'est une façon de dire attention, je suis en train de venir,
je suis en train de venir.
Pour qu'ils se cachent, vous voyez. Donc moi je crois que ce n'est pas une bonne façon de faire des choses, celle-là.
Donc ce que vous demandez au ministre, c'est de présenter cette feuille de route de manière claire, des étapes à suivre dans cette démarche.
Tout à fait, et même un délai, d'autant plus que tous ces fichiers-là existent, les rapports existent, les enquêtes existent. Donc le ministre n'a pas, et même les solutions existent sur sa table. Sur chaque rapport, on avait posé des diagnostics, c'est-à-dire des problèmes, et on avait proposé des pistes de solutions. Ce qui a lieu de faire aujourd'hui, c'est mettre en place dans son cabinet une équipe qui donne la solution par rapport à toutes les propositions qu'on a données au vu de toutes les enquêtes et les contrôles qui ont été effectués. Parce qu'il n'y a rien de mettre
sur le sol. Est-ce que vous pouvez présenter le travail qui a été déjà fait pour que la population qui vous suit en ce moment, M. Guy Kikoukou, qui se fasse une idée très claire sur ce problème? Quel est le problème qui a été posé et quelles sont les solutions qui ont été proposées?
Non, le problème, c'est le ministre lui-même qui l'a dit. Les problèmes qui ont été posés, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de doublons.
Alors, pour le problème des doublons, quelle était la solution proposée?
Pour les doublons, c'est de dilater, c'est-à-dire d'annuler, d'arrêter tous ces gens. Parce que c'est doublons, c'est une personne qui prend l'argent dans 5, 6, 7 ministères. Mais la solution, c'est clair. C'est que cette personne-là, lui-même, on doit le punir. En le punissant, c'est-à-dire partout où son nom apparaissait, on enlève, même cette personne, on l'enlève du fichier. Et il doit venir justifier comment as-tu pu faire ça. Parce que c'est aussi ça qui fait la continuité. En ce qui concerne les fictifs, mais puisque le nombre est connu, mais pourquoi pendant des années l'argent continue à sortir au nom de ces mêmes fictifs dont le nombre est connu et même les matricules en question sont identifiés, même les faux matricules, c'est la même chose. C'est pourquoi je dis que c'est comme dans chaque problème, il y a sa solution dedans. Chaque problème est porteur de sa propre solution, monsieur le journaliste. Ce n'est pas à chercher dans ces rapports-là, il y avait et des problèmes et des solutions. Le ministre devait dire et des solutions. Et des problèmes et des solutions qu'on lui a proposées. Lui n'a parlé que du problème qu'on avait posé. Il n'a pas parlé des solutions qu'on a proposées. Il n'en a pas parlé.
Non, il propose un contrôle et à nouveau identifier ces doublons effectifs. Donc c'est comme dire qu'on reprend le travail à zéro.
Oui, mais le problème, monsieur le journaliste, est-ce que vraiment chacun qui vient doit répéter la même chose, doit refaire le même contrôle? Et qu'est-ce qui garantit alors l'assurance? Parce qu'il y en a eu autant avant lui. Il y a parfois, apparemment, on a fait 2-3 contrôles. Et même chaque mois, on fait même des contrôles. Mais ce n'est pas de trop, c'est énième contrôle de trop. Les fichiers sont là. Les noms des personnes, des doublons, sont connus. Parce qu'il a donné même les montants chiffrés.
Oui, 20 millions de dollars par mois.
Ça venait de quoi? C'est de l'addition de toutes ces anomalies-là, de ces doublons, de ces fictifs. C'est cette addition. Mais c'est la soustraction. La solution, c'est quoi? C'est la soustraction de tous ces doublons, de tous ces montants. On revient à zéro, monsieur le journaliste. Il n'y a pas à chercher. La solution est là. Ce n'est pas à chercher. Ce n'est pas des commissions à créer. Non. C'est un faux problème. Parce que quand il va créer, ceux qui sont des fictifs ou des fausses personnes, ils vont aller, ils vont faire quoi? Enregistrer les mêmes personnes. Et ce sont des fausses personnes ou des personnes non attitrées. Ils vont se faire identifier et ça va continuer. On aura réglé quel problème de cette façon-là?
Alors, les dysfonctionnements constatés au niveau du secteur de la fonction publique, pour certains, et seraient également liés au manque d'informatisation du système lui-même.
Oui, manque d'informatisation. Mais pourquoi il n'y a pas d'informatisation? C'est l'État qui ne sait pas. Qu'est-ce que coûte un ordinateur? Vous savez, vous pensez que notre gouvernement, seulement dans l'argent, dans les 20 millions qu'on perd là, si on bloque, on récupère combien d'argent? Avec 1 million de dollars, on peut informatiser toute la fonction publique parce qu'il y a déjà une partie qui est informatisée. C'est une autre partie qui n'est pas informatisée. Et donc, on peut bien le faire avec dans l'argent des fraudes là. On reprend cet argent, on informatise, les ordinateurs sont là, les techniciens sont là. Tout est là, monsieur le journaliste.
Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Parce que cette tentative d'informatisation du secteur a commencé avec le ministre Matenda, qui a été suivi par le ministre Kibala, et par la suite par Issoum Bichou. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'on n'y ait pas les résultats les plus tôt?
Ce qui s'est passé, c'est que chaque rapport, chaque fois qu'on a fait un tel contrôle, on a amené les rapports, ça vient ici, le ministre dit bon, on va agir, et puis on met dans les tiroirs. Quand on a mis dans les tiroirs, on a compris le système, on injecte son propre système encore. Donc, parce que chaque ministre, vous le savez, vient avec ses militants, vient avec les gens de son parti, les gens de sa famille, de sa tribu, vient larguer.
Et tout de suite, on profite pour mettre les membres de famille et leur donner des matricules, même les membres de partis politiques.
C'est ça, c'est ce qui s'est fait. Chacun a ajouté un problème. De Matenda jusqu'à aujourd'hui, chacun a ajouté
un problème.
Un problème. Personne n'a arrêté.
Et vous craignez, vous redoutez que l'IAU ajoute encore un autre problème.
En tout cas, les mêmes causes
produisent les mêmes effets.
Les mêmes effets. Je doute que s'il procède de la même façon, il va ajouter les mêmes problèmes.
081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct, monsieur Guy Kikoukou, nous vous gardons en ligne.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Chaque ministre apporte le problème. Aujourd'hui, les contrôles d'identification, c'est un travail qui a été déjà fait par le passé. Pourquoi ne pas prendre le fichier qui existe et procéder directement à des solutions adéquates? Alidor, vous êtes à Kinshasa. Comment réagissez-vous par rapport aux propos de notre invité tout à l'heure? Bonjour Alidor.
Oui, bonjour Monsieur Dieu.
Vous êtes à Kananga.
Ce n'est pas à Kinshasa,
vous
mais
êtes à Kananga.
Partir de Kananga, dans la province du Kasaï Central.
Votre réaction, Alidor?
Oui, Monsieur Juer, nous constatons que l'annonce des dysfonctionnements dans l'administration a toujours été faite par tous les ministres qui se sont succédés à la fonction publique. Et malheureusement, Monsieur Juer, ce phénomène a toujours survécu à tous ces gouvernements. Ce phénomène a des ramifications aussi bien au niveau national que provincial. Il suffit que le ministre fasse une annonce comme ça a été fait, après quelques temps, il y a toujours des enveloppes qui vont être constituées au niveau des différentes divisions, au niveau des différentes provinces, et maintenant le ministre a aussi sa cote part mensuellement, et le dossier va être jeté dans les tiroirs. On va toujours s'éterniser au niveau de ces annonces sans procès, sans une suite favorable. C'est comme ça que cette fois-ci, nous voulons que le ministre Liao puisse se démarquer de ses prédécesseurs. Parce que la plupart des commissions qui ont été constituées n'ont accouché que de la souris. Cette fois-ci, nous voulons des résultats concrets. Parce qu'il y a toujours des commissions mises sur pied qui coûtent aussi beaucoup à l'État congolais. Il y a toujours des équipes qui partent de Kinshasa vers les provinces et avec le choix des missions et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de résultats pour la population. Nous voulons cette fois-ci qu'il y ait une commission mixte qui va pouvoir tabler sur cette situation et que, une fois pour toutes, cette situation de dysfonctionnement dans l'administration publique soit résolue. C'est la honte au niveau international quand on entend toujours parler de dysfonctionnement dans la fonction publique et après il n'y a pas de suite et on continue à en parler. Mais dans tous les cas, c'est l'État congolais qui perd des milliers et des milliers de dollars chaque mois qui passe. Et quand ça devient l'année, on vous parle de 240 millions. C'est trop, monsieur Julien. C'est un
oui,
problème.
Mais là,
facile à résoudre s'il y a seulement la volonté politique.
Merci beaucoup, Alidor, d'avoir appelé des Kananga. C'est vrai, dans vos propos, c'est comme si vous exigez une enquête sur l'argent qui a été déjà sorti pour les contrôles et l'identification dans le but de la maîtrise de l'effectif de la fonction publique. Parce que là, finalement, le ministre n'a annoncé que le manque à gagner autour des doublons, des cumulats et d'agents fictifs. Mais l'argent qui est sorti dans les différentes commissions qui ont été diligentées pour la maîtrise des effectifs, ça, on l'a pas dit. Mais il faudrait qu'en ce moment, qu'on puisse mener des enquêtes là-dessus. Maître Ali, vous êtes à Calémi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Maître Ali, vous êtes avec nous. Voilà, vous avez la parole. Quelle est votre réaction?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Personnellement, je suis en train de me poser une question. Pourquoi les gens à une réquisition récente et à une...
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne, Maître Ali. On ne saura pas vous garder le plus longtemps possible sur les ondes de Radio Capi par respect de nos auditeurs. Alors, Augustin, vous êtes à Bouindé. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Gia. Bonjour à tous les auditeurs.
Comment réagissez-vous par rapport à cette démarche du ministre de la fonction publique?
D'entrée de jeu, nous ne pouvons que jeter de fer suite à cette démarche du ministre de la fonction publique. Il se bat pour mettre en paix, pour remettre de l'ordre dans ces grands ministères. Un ministère, l'OTAN jadis, qui est considéré comme un ministère qui regorge un nombre impressionnant des employés congolais qui travaillent au bénéfice de la population ou au bénéfice de l'État congolais. Or, dans ces services, c'est parmi les services qui regorgent un nombre impressionnant où le ministre avait fait un état des lieux qui est déplorable. L'État congolais qui est en train de perdre les sommes faramineuses suite aux personnes qui ne rendent pas de loyaux services à notre État, qui est la République démocratique du Congo. Notre point de vue serait aujourd'hui de pouvoir vraiment d'abord encourager un peu le ministre pour cette démarche. Nous l'encourageons pourquoi? Parce que nous remarquons, c'est depuis longtemps, c'est plusieurs années, que ce service, la fonction publique aujourd'hui, c'est un service, le seul service où les gens passe plus de trentaines d'années, il ne reste qu'à la maison, mais lorsqu'il a fin du mois, il passe au bureau pour retirer des sommes qui sont colossales. Et ça, c'est un peu un service où on doit vraiment remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre, je crois, le ministre a déjà passé peut-être à une étude de faisabilité. On a étudié avec les experts. L'État congolais a évalué les sommes où
qu'il est en train de mais Augustin, oui. Augustin, l'état des lieux oui. De différents secteurs de la vie à RDC est connu, étudié, et on a même fait des propositions pour sortir des secteurs de certaines difficultés. Mais alors, pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on a cité tout à l'heure, avec notre invité et même certains auditeurs, qu'effectivement, il y a eu plusieurs ministres qui se sont succédés et qui ont tenté de pouvoir trouver une solution par rapport à cette question. Et pourquoi ils n'y arrivent pas?
C'est d'abord, le vrai problème ici, c'est le problème de gouvernance. Et c'est le problème où on a incarné une philosophie selon laquelle, lorsqu'on est à la gestion d'un service quelconque dans notre pays, on n'a pas une bonne gouvernance, et lorsqu'on entre, on a une philosophie dans sa tête de ne pas relever un peu le défi. C'est ça un peu le problème, parce que c'est un mauvais système qui gangrène déjà dans la tête de tous les Congolais. C'est que lorsqu'on est dans un mauvais système, lorsqu'on entre dans ce système pour relever le défi, c'est ce qui pose problème, c'est un mauvais système. Les systèmes aujourd'hui, ce sont les antivaleurs auxquelles nous déployons. Nous déplorons tous ces antivaleurs, les clientélismes, mais ce sont des choses qui sont dites à ces antivaleurs qui régressent un peu tous les services, même pas seulement la fonction publique, dans tout le ministère aujourd'hui. C'est ça un peu le grand combat. Nous luttons aujourd'hui contre la corruption qui est devenue aujourd'hui une monnaie courante. Mais c'est le problème d'une bonne gouvernance et le problème d'hommes. Si les hommes auront seulement des grandes visions, comme la vision du ministre là, les choses peuvent aller. Mais si seulement il n'y a pas de bonnes visions, où les collaborateurs, lui seul le ministre a de bonnes visions, mais il est entouré par des personnes qui sont des corruptibles, qui la corruption est devenue une monnaie courante, je crois que les défis ne seraient pas relevés. Mais si on aura des bons hommes avec une bonne gouvernance et des hommes qui seront quand même vertueux, je crois que les défis seront relevés. Mais si on a toujours le même homme avec les mêmes pratiques anciennes, je crois que le défi sera un peu impossible à vous relever.
Merci beaucoup, Augustin, d'avoir appelé des Bouindé. Espérant, vous nous avez rejoint à ce niveau du débat. Vous, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Espérance.
Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour à l'invité de la radio Katine.
Alors, à en croire les uns et les autres, on se rend compte qu'à l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de l'administration, c'est comme si on assistait à un éternel recommencement. C'est-à-dire, on a l'impression que les ministres donnent toujours l'image de quelqu'un qui veut innover, mais qui tombe aussi facilement dans les déjà faits, dans les déjà réalisés, et parfois en créant encore des commissions qui prendra beaucoup d'argent pour les trésors publics.
Ouais, dans l'esprit et la lettre de la Constitution du 8 février 2006, à son article 123, l'administration publique a un caractère d'apolitisme, de neutralité et d'impartialité. Mais force est de constater que malgré les multiples réformes entreprises donc dans l'administration publique de l'État, de 1973 jusqu'à aujourd'hui, ne sont que pour des besoins électoralistes. C'est pourquoi il y a tant de doublements, de canulars, d'agents fictifs et d'autres détenteurs de formes attractives, avec notamment l'aval de certaines autorités compétentes. Car parmi tant d'autres, nous avons constaté il y a l'ère partisane. Alors, s'il arrivait que les politiques, notamment les politiciens congolais, s'abstiennent dans la pratique de s'ingérer dans le mode de recrutement, par exemple, à certains postes dans l'administration publique de l'État, notamment le recrutement clandestin des agents publics de l'État, avec l'application d'un système de contrôle dit à chaque fin du mois, ceux qui facilitent ce genre de comportement seront vraiment punis. S'ils sont punis, il y aura vraiment quelque chose que nous devons enregistrer comme les avancées. Monsieur Gire, la loi numéro 016/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, c'est un instrument juridique moderne qu'il faut donc appliquer et respecter en termes de recrutement par voie de concours. Les avantages alloués aux agents publics de l'État ainsi que la mise à la retraite.
Okay.
Tout ceci si le gouvernement congolais réunit les moyens conséquents. Appliquez les mesures réglementées dans la loi, vous verrez que tout va aller de l'avant, que retourner en arrière avec les actes que nous avons toujours décriés dans le mauvais sens. Le gouvernement a un défi à relever, tout comme nous, la population, et aussi les agents qui sont donc affectés et retenus par le gouvernement doivent faire l'essentiel pour que ce pays avance. Nous avons beaucoup plus perdu l'image du pays dans le monde entier sans toutefois faire quelque chose. Nous devons vraiment avancer.
Merci. Merci beaucoup, Espérant, d'avoir appelé de Kinshasa. Alors, Kalo, nous vous gardons en ligne. Il est temps de retrouver notre invité, Guy Kikuku, qui est l'intersyndical du Congo. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 si vous désirez intervenir en direct.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Il faut encore merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Alors Guy Kikuku, vous êtes l'intersyndical du Congo, vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous avez suivi les uns les autres. Quelle est votre réaction après avoir écouté les idées de la population qui suit de près cette actualité?
Oui, monsieur le journaliste, je pense que vous faites la synthèse, tout le monde est unanime. Un, il y a un problème qui se pose. Deux, le problème n'est pas toujours résolu depuis des années. Trois, on constate qu'on recommence toujours à zéro, sans avancer. Et trois, on gaspille, on perd le temps, on perd l'argent, on perd la crédibilité du pays, on pénalise les vrais agents qui travaillent, qui ne sont pas mécanisés, qui n'ont pas l'argent, et d'autres personnes qui ne sont pas bénéficiaires, qui ne doivent pas avoir l'argent, continuent à avoir cet argent-là impunément. Et les ministres qui passent se donnent toujours le temps de vouloir régler ces problèmes sans les régler, en pénalisant les vrais fonctionnaires qui devaient avoir droit à ça, et ils en ajoutent d'autres problèmes. Donc la solution, ça signifie que soit nous sommes incapables, ou on a des gens incapables de régler les problèmes, parce que c'est ça qu'il faut dire, il n'y a pas deux mots pour le dire, soit qu'on ne veut pas du tout régler ces problèmes-là. C'est tout. Donc moi je pense qu'en tant que pays, en tant que gouvernement, On ne peut pas chaque fois chercher des choses qui sont réglées ailleurs. Si on n'a pas, on pense qu'il n'y a pas des experts, ils peuvent recourir. Il y a des experts de la Banque mondiale. Il y a les experts, des gens qui ont travaillé dans d'autres pays, dans des cas similaires. Ça existe. Mais ici, il y a la solution. La solution, le problème est que ces gens à qui on demande de régler sont des vrais problèmes pour les problèmes qu'on veut régler. Donc, on ne peut plus avoir ce secrétaire généraux-là dans des commissions parce que c'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui prennent cet argent. C'est eux qui bénéficient, qui partagent cet argent de la magouille. Et troisièmement, l'impunité que l'État, les ministres, moi je suis désolé, ce que les ministres devaient faire, devaient dire, on a trouvé des gens de doublons, on les a arrêtés, ces gens-là, on les connaît, on en l'aide, mais ils touchent l'argent. Pourquoi ne fût-ce qu'arrêter ces gens? Pourquoi on ne l'a pas fait? Les secrétaires généraux, ceux qui font des opérations retour d'argent, ça part, ça revient, on distribue des enveloppes. Pourquoi on n'arrête personne alors qu'on dit qu'il y a des gens qui sont dans cette corruption? Comment vous pouvez justifier ça? Il n'y a pas de débat. Je crois que nous risquons de perdre tout notre temps à redire les mêmes choses.
Mais finalement, qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que dès lors qu'on sait que la Banque mondiale a appuyé, a accompagné l'État congolais dans la réforme de l'administration publique. Et si aujourd'hui, on a l'ENA qui fonctionne, qui a bien fonctionné il y a 5 ou 10 ans, mais aujourd'hui ça commence un peu à battre de l'aile également, parce que bon, il y a finalement la politique qui s'en est mêlée.
Oui, les étudiants de l'ENA n'auront pas de place. Parce que, comment, pour que les gens, nous sommes dans un espace qui est occupé, pour que ces gens-là entrent, il faut faire sortir, d'abord vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont dépassé largement l'âge de la retraite, ils ne partent pas en retraite. Il y a des gens qui sont moins qualifiés qu'on a engagés. Et c'est ça, d'ailleurs, même ça piétine. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de qualifications auprès de tous ces gens-là. Et ces gens ont peur qu'on engage des gens qui ont étudié les gens de l'ENA. On a peur d'eux. On ne peut pas les prendre parce qu'ils viendront régler les points et faire découvrir leur magouille. Donc, il y a des blocages et des barrages partout. Moi, je crois, ce que le ministre doit faire, c'est suspendre tous ces problèmes. Quand on veut régler un problème, on crève la tête. On ne peut pas venir vouloir guérir une plaie en essayant
de mettre des trucs.
Il faut enlever les pus. Il faut, ça va faire mal. On va crier, on va faire normal, mais parce que c'était une plaie, il faut qu'on aille mal. Mais il faut qu'on dégage toutes ces personnes-là qui ont fait partie des problèmes. On les suspend, on les met à côté, on met des gens en maître et puis on met un contrôle. Un contrôle avec des gens qui ont créé cette maladie. Pendant qu'ils sont là, ils vont corrompre le système, ils vont embrouiller le système et il n'y aura rien, il n'y aura aucun résultat. C'est ce qui s'est fait malheureusement depuis 16 ans, monsieur le journaliste. C'est ça la cause, la même cause, je vous ai dit.
Donc l'État n'a pas d'argent pour envoyer ceux qui ont dépassé l'âge de travailler, d'aller en retraite?
Oui, mais qui vous dit qu'il n'a pas là 20 millions là qu'on perd? Vous avez dit, il a dit la semaine passée, on perd 20 millions.
Chaque mois,
20 millions là, c'est combien de fonctionnaires qui peuvent partir? Et c'est chaque mois, on perd 20 millions. C'est-à-dire, dans une année, on perd plus de 240 millions de dollars.
Oui, par an.
Par an. De quoi mettre en passion tous ces gens-là, messieurs les journalistes? Ce n'est pas un problème d'argent. On voit qu'il y a des gens qui prennent l'argent, ça se volatile.
Mais la Banque mondiale avait financé.
Sortir cet argent-là, tu sais.
Mais la Banque mondiale avait financé.
On va sortir cet argent dont on dit que c'est l'argent de la fraude, 20 millions. On va encore sortir ça. Ça va partir. Le mois prochain, ça va sortir, ainsi de suite. Non, il n'y a pas une volonté.
Mais en attendant qu'on mette la main sur les 20 millions là, ou sur les gens là qui les doublons et les fictifs, mais la Banque mondiale avait pris la décision de financer les départs en retraite de certains agents. Et à un certain moment, ils avaient même donné de l'argent.
Oui, mais comment est-ce que la Banque mondiale va continuer le processus, un processus qui n'aboutit pas depuis 16 ans? Même si c'est vous, vous voulez accompagner quelqu'un, il ne sait pas marcher. Vous voulez lui donner des béquilles, il jette les béquilles. La Banque mondiale va faire quoi? Dans aucun pays, la Banque mondiale ne développe pas un pays. La Banque mondiale n'est pas le gouvernement de la RDC. La Banque mondiale donne des ressources, donne des moyens, donne l'argent. Mais l'organisation doit sortir de la tête du gouvernement, doit sortir des entrailles du système de l'administration du gouvernement. Or, maintenant, tout le monde est unanime. Et le ministre lui-même, qui gère et dénonce. Les agents dénoncent. Les syndicalistes dénoncent.
Les observateurs dénoncent.
Oui. Qui voulez-vous qui donne encore son argent? Qui va donner son argent dans un tel climat, dans un tel système? La personne qui devait régler les problèmes crie, dit non, on perd de l'argent. L'argent sort frauduleusement. Maintenant, on va lui donner l'argent.
Et c'est lui qui finance, dit non, il y a des problèmes. Je ne serai pas financé ou appuyé.
Tout à fait.
Voilà. Alors, on va poursuivre ces débats avec les autres auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Kalo qui est en Bujimaï et Eminan Mwanda qui est à Bukavu. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe. Et vous avez également la possibilité d'interagir et d'échanger avec nous sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue de parole aux auditeurs. Kalo, vous êtes en Bujimaï, bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi et bonjour à tous les auditeurs et votre invité du jour.
Comment réagissez-vous par rapport à cette démarche du ministre?
Vous savez qu'il m'est difficile d'encourager le ministre qui vient d'annoncer encore les mêmes histoires annoncées de tous ces temps ici. Il n'y a pas une nouvelle chose que le ministre vient de nous annoncer. Parce que annoncer un problème, qu'annoncer le magouille, annoncer tout ce qui a été dit, moi je ne trouve pas cela un problème. Mais ce qui est très important, c'est le mécanisme d'abord pour verrouiller d'abord ces systèmes-là. Vous savez ce que moi j'ai déjà découvert, c'est quoi? Ici d'abord en Bujimaï. Les grands problèmes de tout ce qui se passe comme magouille, ce sont des histoires organisées au niveau le plus haut possible de la gestion de la chose publique, au niveau de ces ministères. C'est-à-dire, au niveau de Kinshasa, là, moi, je vous rassure, je connais quand même quelques cas. Au niveau de Kinshasa, au niveau des secrétaires, les secrétaires qui sont là, moi, je trouve qu'il y a toujours le chemin aller-retour de cet argent-là. Au niveau de la province, même chose. C'est-à-dire, pour mettre fin à cette histoire-là, moi, je trouve, messieurs les journalistes, il faut d'abord qu'il y ait une équipe mixte. J'ai dit mixte, qui ne dépend pas de ce ministère-là. Parce que les gens que vous voyez qui sont là, que ce soit au niveau des provinces, que ce soit au niveau de Kinshasa, ce sont des gens qui connaissent bien les magouilles. Ils ont des systèmes, ils ont des mécanismes appropriés pour faire ça. Comment expliquer? Nous sommes ici en Bujimaï, je connais des cas, je connais des gens. Quand nous dénonçons comme ça, c'est que nous connaissons réellement. Okay. Nous connaissons des gens qui ne travaillent pas, mais qui vous touchent l'argent chaque jour. Pendant qu'il y en a aussi qui sont en train de se plaindre pour ne pas avoir touché quelque chose. Comment ne pas aussi parvenir à choisir les gens nets? Moi, j'ai dit nets. C'est-à-dire
oui, mais les gens nets, tels que le nous propose notre invité, il dit qu'il faut faire appel à un audit étranger, extérieur. Parce que ce sont les mêmes commissions qui sont diligentées, composées des gens du ministre,
des gens de... Les gens sont là, nous connaissons des systèmes, nous avons quand même essayé quand même de poursuivre, nous connaissons comment il faut détecter ces gens-là. C'est simple de voir les gens qui sont là, ils vont vous dénoncer des histoires et vous montrer comment ces gens-là opèrent. Moi, je ne trouve pas cette histoire ici, ça ne va pas prendre fin aussi longtemps qu'on annonce, qu'on dénonce.
Oui, mais comment trouver une solution dès lors que le ministre va diligenter une commission, et cette commission sera composée des membres de son parti politique, et qui ont envahi d'ailleurs les cabinets, et qui sera composée des amis, des frères, et qui vont, pensez-vous, trouver des doublons, si ce sont les membres de leur famille, ils vont sérieusement les dénoncer.
Voilà un problème aussi. Les ministres, chaque ministre qui entre toujours avec ces gens, que ce soit au niveau de la province, c'est-à-dire ce sont des nouveaux venus dans ce ministère-là. Quand lui va envoyer les gens de son parti politique, d'ailleurs c'est le plus pire qui existe dans notre pays. Laissons la politique aux politiciens, mais ici c'est l'administration. Mettons les gens qui sont capables de dénoncer, de déceler vraiment. Il y a des techniciens. Quand nous parlons ici, nous avons quand même des techniciens. Nous connaissons comment déceler ces gens-là. Au niveau de la province, que ce soit au niveau de Kinshasa, nous connaissons ce qui se passe. Aller-retour de cet argent-là, nous connaissons vraiment, messieurs les journalistes, nous en avons marre. Pendant que les autres soufflent, maintenant il y en a aussi qui touchent l'argent sans travailler. Mais en tout cas, c'est dommage dans ce pays ici. Il faut vraiment
ceux qui travaillent ne sont pas mécanisés et ceux qui ont les matricules ne travaillent pas et ils sont gracieusement payés. Merci beaucoup Kalo d'avoir appelé de Mbujimaï et Eminan, vous êtes à Bukavu. Bonjour Eminan.
Bonjour Monsieur J.R. et bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et à toute l'équipe qui vous accompagne.
Quelle est votre réaction par rapport à ce sujet?
Nous saluons d'abord la révélation faite par l'appel équipe gouvernementale Parce que si nous voyons les montants de 20 millions de dollars par mois décaissés par les trésors publics, mais récupérés par des personnes qui ne sont pas éligibles, vraiment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Vraiment, nous félicitons et nous souhaitons que l'organe là en question a donné maintenant des directives. Nous savons que la compétence d'état d'attribution, c'est maintenant la justice qui devrait intervenir là-dessus pour éradiquer la situation. Parce que chaque année, les universités produisent le finaliste, mais si ce finaliste finit par se mécomporter suite au manque d'emploi. Et c'est pour cela que même les gens qui ont étudié avant nous disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation, parce qu'il n'y a plus de formation. Parce que quelqu'un étudie sans pour savoir la danse qui va travailler, soit qui peut trouver facilement de l'emploi. Ça doit toujours le démotiver, il va toujours prendre toutes choses à la légère. C'est pour cela que M. Jure, à ce stade-ci, nous interpellons notre justice qui est présumée indépendante de faire son travail afin d'assainir le secteur de l'intérieur et que les gens qui continuent à balayer, soit à vadrouiller dans la rue, le finaliste est là, peuvent aussi trouver de l'emploi. Et ceux qui travaillent puissent avoir un salaire de soins. Mais sinon, si nous continuons dans cette révélation seulement sans pour autant avoir des mesures d'application, soit des mesures d'accompagnement, nous, c'est une façon maintenant de mettre de vinaigre sur le plaid de Congolais qui souffrent de toutes les années, les FGR.
Merci beaucoup, Eminent Mwanda, vous avez appelé de Bukavu. On passe de l'autre côté, pas très loin de Bukavu, d'ailleurs on est à quelques kilomètres de Bukavu. On retrouve Marie-Paul là, qui est à Kisangani. Marie-Paul, bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Kapi.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
Alors pour vous, vous estimez que l'initiative prise par l'actuel ministre le patron de l'administration publique, et c'est vous déjà à l'échec comme les autres, hein, qui les pensent, parce que finalement c'est déjà
fait.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Je disais qu'il faut d'abord signaler que toutes ces révélations de doublants, de cumulats, et ainsi de suite, démontrent en suffisance que l'administration publique de la RDC a un problème d'administration. C'est un problème d'administration parce que dans un pays où l'administration fonctionne à bonne et due forme, on ne peut pas voir ce genre de choses. Et chez nous, parce que l'administration ne fonctionne pas, et nous avons ce genre de choses. Alors, on doit se rappeler quand même que ce n'est pas la première fois. Il y a eu beaucoup de contrôles qui ont été initiés par des ministres précédents. Et parce que les gens qui travaillent au sein de ces établissements et ces ministres sont au courant de tout ce qui se passe et tous ces rapports ont été voués à l'échec. Et voilà pourquoi, à mon sens, je pense que ce que vient de faire le ministre de la fonction publique, c'est bon. Mais ce qu'il faut ici, c'est peut-être de revoir un peu la manière de faire des choses. C'est-à-dire quoi? Dans bien des cas dans notre pays, lorsqu'il y a une révélation, les gens cherchent à faire autrement pour échapper ou pour essayer de détourner l'opinion ou de dévouer l'opinion publique de ce qui est révélé comme un dysfonctionnement. Alors, tout ça, des gens qui reçoivent, on a toujours fait des débats ici. On ne peut pas comprendre pendant que dans un pays, il y a des gens qui manquent l'argent. Il y a ceux-là qui ne sont jamais payés. Il y a des gens qui reçoivent moins d'argent, mais et qu'il y a des gens qui reçoivent des multiples salaires et ils sont partout ailleurs. Non, ça, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que l'administration de notre pays doit fonctionner et que toutes ces révélations doivent interpeller tous les gouvernants. Et la situation n'est pas seulement au niveau de la fonction publique. C'est d'atout, même dans des provinces, et ce sont des choses que nous connaissons où il y a des noms, des gens qui n'existent pas, mais qui continuent à toucher l'argent de l'État et tout, qui sont ceux-là qui mettent ces noms-là? Qui sont ceux-là qui protègent ces noms-là? C'est les gouvernants. Je pense que il y a bien évidemment, et toutes ces révélations doivent être récupérées par les services, par la justice. On fait des enquêtes de savoir qui a touché quoi, qui bénéficiait de tout cet argent et toutes ces manes d'argent que le pays est en train de débourser, à qui cet argent a profité. Et c'est là on peut justement établir les responsabilités et puis tranquer de manière définitive pour que l'État commence à récupérer un peu l'argent. Nous avons des effectifs pléthoriques. On dit qu'il y a beaucoup de gens, même dans nos divisions provinciales ici. Vous allez là où on dit qu'il y a beaucoup de gens, vous n'allez même pas voir qu'il y a beaucoup de gens, mais lorsque on envoie des listings, vous voyez des noms de gens que vous ne connaissez pas et que l'argent là, je ne sais pas, avec le système des circuits bancaires, comment cet argent est en train d'échapper à l'État. Voilà un problème qui est très compliqué,
on croyait que la bancarisation...
On doit instituer le régime de l'administration, on doit instituer le régime de la démocratie pour essayer quand même d'aider les pays, parce que les Congolais démontrent en suffisance que beaucoup de gouvernants n'ont pas la volonté de pouvoir aider les pays. Il y a toujours des pratiques qui sont antidémocratiques, des pratiques qui renforcent les pays dans le sous-développement, alors que nous sommes censés avancer, les pays ont des problèmes, et les gens qui touchent de manière indigne l'argent doivent être interpellés, même qui que ce soit, il doit répondre de ses actes. Là, ce n'est pas une bonne chose, nous continuons pendant que les autres plaisent. Les autres sont en train de jubiler avec des millions, les autres sont en train de bénéficier gratuitement de l'argent de l'État, alors que les pays n'avancent pas, les pays sont en train de se sous-industrialiser, les pays sont en train de se sous-développer, et les peu de moyens qu'on a sont mal gérés, et qu'il n'y a pas la gestion, il n'y a pas la traçabilité. Ce sont des défis énormes que nous devons, que le gouvernement de la RDC doit le mettre comme des premiers chantiers dans notre pays, afin d'aider les finances publiques de l'État, parce que ces finances publiques de l'État saignent.
Merci beaucoup, Marie-Paul.
Ça laisse à désirer.
Merci beaucoup, Marie-Paul. On comprend avec vous, on note que, effectivement, la bancarisation n'a pas résolu ces problèmes des doublons, des fictifs, et voire même de cumulards, hein, qui perdent beaucoup d'argent, hein, à l'État congolais, autour de 20 millions de dollars américains par mois, Dixit, le ministre de la fonction publique. Alors, donc, la grande question maintenant, l'administration, on sait que l'administration est inexistante. Alors, pourquoi maintenant l'État dépense beaucoup d'argent pour ce qui n'existait pas? Qu'est-ce qui expliquerait cet paradoxe? Merci beaucoup, Marie-Paul, d'avoir appelé. Alors, on va prendre Jean-Paul à Ilebo avant de retrouver à nouveau notre invité. Jean-Paul, vous êtes avec nous à Ilebo. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot et la Meiji, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi. C'est M. Jean-Paul à partir d'Ilebo dans la province du Kasaï.
Quelle est votre réaction, Jean-Paul?
Monsieur Pierrot, je vous dis que nous n'aimons pas ce pays. Nous sommes vraiment des Congolais. La fois passée, je vous avais déjà souligné un aspect très clair pour dire que aimer le pays, ce n'est pas le synonyme de marcher avec notre pays dans la bouche, ou soit commencer déjà à parler, mais aimer le pays, c'est poser les actes qui amènent le pays à un développement harmonieux. Nous sommes vraiment très contents du travail d'abord rendu par le ministre de la fonction publique. Mais je vous dirais que ce n'est pas seulement la fonction publique. Je vous dis que dans tous les secteurs, il y a cette aventure sale que nous appelons très sale, parce que l'argent là ne mérite pas d'abord à ces gens-là de toucher l'argent. Comment est-il possible? Il y a des gens qui vous travaillent, M. Pierrot, même dans les secteurs de l'enseignement, même dans les secteurs d'abord de la santé et consorts. Il y a certaines personnes qui vous travaillent du 1er au 30, du lundi au samedi. Il faut voir la manière dont ces gens-là vous travaillent, mais qui ne touchent même pas d'abord l'argent. Et vous trouverez d'abord quelqu'un qui est au marché, qui est d'abord dans les aventures, qui est d'abord dans les affaires et qui touche les salaires chaque fois du mois. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que ce pays, vraiment, c'est un pays que nous pouvons appeler pays? Et ce sont seulement les filles et les fils du pays qui continuent déjà à faire ces aventures-là.
Comme qui brille par manque de loyauté.
Souligné, mon ami. Mmh. Oui, Pierrot, comme mon ami a souligné à partir d'abord de Kisangani. Je vous dirais que vraiment ce sont des aventures. Nous avons passé par le système des comptables. On a dit que les comptables continuent à bouffer de l'argent. Nous sommes allés dans le système d'abord de bancarisation. Et on n'a pas abouti aussi à des résultats fiables, Pierrot, je vous dis. Est-ce que cet argent-là, réellement, nous avons une administration? L'argent qu'on paie d'abord, même dans les histoires de Soficom, par exemple, même ici à Ilebo, on parle d'abord dans la Caritas, ainsi de suite. Mais il y a des listings qui se multiplient, M. Pierrot. Vous trouverez, vous allez vous rendre compte qu'un enseignant qui travaille, qui continue à à travailler, qui continue à souffrir. Même un agent administratif, vous allez voir la façon dont ses parents la partent d'abord dans les services. Les souliers d'abord mal serrés, la chemise d'ailleurs perdu de couleur, mais il a d'abord laissé patriotique pour travailler, mais il ne touche même pas. Cette aventure-là, nous ne voulons plus. Nous voulons d'abord aider ces pays. Nous sommes les fils et les filles de ces pays. Nous avons les soucis d'abord de travailler pour que nous puissions remettre, n'est-ce pas? On donne à César ce qui est à César, monsieur Pierrot. Est-ce que ces gens-là ont une conscience? Est-ce qu'ils ont d'abord l'interpellation de la conscience? Vous dites que les pays d'abord n'avancent même pas. Nous disons que les pays, on ne nous paye pas très bien. Mais aussi longtemps que nous avons d'abord pertorite d'argent qui ne travaillent même pas. Et cet argent-là, au bénéfice de quoi? Le trésor public ne bénéficie rien, Pierrot. Nous devons d'abord se rendre compte que c'est notre pays, nous sommes les fils des pays. Aimons les pays pour que nous puissions d'abord avancer. Et ça sera une bonne chose, M. Pierrot.
Vraiment, merci beaucoup.
Cette histoire-là, nous disons merci, mais que ça ne soit pas seulement au niveau de la fonction publique. Descendons sur le terrain, même dans les différents secteurs. Je vous dirais qu'à des fois, à la fonction publique, il n'y a rien que dans d'autres secteurs, M. Pierrot.
Merci beaucoup d'avoir appelé de Dilebo. Monsieur Jean-Paul, 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, monsieur Guy Kikuku, intersyndical du Congo. C'est vrai, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a vraiment ce paradoxe qui existe et qui inquiète les uns et les autres. En RDC, on le sait et c'est dit par plusieurs observateurs qui confirment cette allégation que l'administration est inexistante. Mais comment expliquerait que l'État puisse avoir une grande enveloppe au niveau des gens qui ne travaillent pas, une administration qui n'existe pas, mais qui paye? Monsieur Guy Kikuku. Voilà, monsieur Guy Kikuku, vous êtes avec nous?
Je suis en ministre, oui, moi aussi.
Monsieur Guy Kikuku, vous êtes avec nous?
Oui,
monsieur. Allô? Voilà, des petits soucis, le temps que la réalisation nous aide. Voilà. Voilà, Guy Kikuku, vous êtes avec nous? Voilà, alors on retrouve d'abord Christian qui est à Kinshasa. Christian, vous êtes avec nous? Christian, vous êtes à Kinshasa. Christian, bonjour. Voilà, on a des petits soucis également avec la ligne de Christian. Allô? Allô, Christian? Voilà, on ne sait pas qui est en ligne là à Kinshasa. Voilà, le temps de retrouver. Est-ce que Guy Kikuku est encore en ligne?
Ok. Allô?
Allô, monsieur Guy Kikuku, vous êtes encore en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, on vient de suivre les auditeurs. Quelle est votre réaction? Parce qu'on s'est dit, en RDC, ce n'est pas un secret, l'administration n'existait pas. Alors, pourquoi l'État débourse autant d'argent pour ceux qui n'existaient pas?
Oui, monsieur le journaliste, je crois que tout le monde a tout dit. Je crois que les problèmes, c'est les problèmes d'hommes. Et comme on dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Même s'il y a les désordres pour nous, parce que avec l'expérience, dans le secteur privé, chaque entreprise, c'est le chef d'entreprise qui organise son entreprise. Dans le secteur de l'État, c'est le ministre de la fonction publique et le patron de l'administration. C'est lui, et c'est pourquoi on nomme un ministre, il fait sa politique. Le ministre vient avec sa politique, il découvre qu'il y a des problèmes, et c'est lui qui imprime maintenant sa politique. Et la pourriture de l'administration que nous avons, ce sont les empreintes des ministres qui sont passés par là. C'est ça, ils nous ont légué la pourriture à l'administration. Maintenant, le ministre Jean-Pierre Léo vient, s'il a la bonne volonté, ce que nous pouvons lui dire, c'est que il doit procéder autrement. Il ne doit pas aller sur les traces des autres. Il ne doit pas faire comme les autres l'ont fait. Première chose qu'on fait dans tous les pays du monde, ce qui fait reculer les gens, c'est la sanction. Deuxièmement, c'est la justice qu'on ne trouve pas dans une administration. Un ministre ne peut pas déclarer qu'il y a des voleurs sans dire qu'est-ce qu'il a fait de ces voleurs. Un ministre ne peut pas dire qu'il y a la fraude sans dire qu'est-ce qu'il a fait de ces fraudeurs. Mmh. Un ministre ne peut pas dire qu'il y a des trous sans boucher ces trous-là. S'arrêter à dire qu'il y a des trous sans boucher ces trous. Non. Je crois que si son Excellence a la volonté de changer les choses, moi à sa place, je suspends tous ces gens qui étaient là. Deux, on les remplace, on met d'autres personnes. Parce que, attendez, les gens sont là pendant 5 ans, 10 ans, il y a des problèmes qui n'ont pas résolu. Ça signifie qu'ils n'ont pas la compétence. Pourquoi on doit cacher les choses? Pourquoi on doit couvrir les choses? Et chaque gouvernement qui vient, mais il vient avec son expertise, il vient avec sa méthode, il vient avec ses hommes. On met en place, il fait une mise en place, des nouvelles personnes, avec, en signant les contrats de performance. On dit, monsieur, vous avez 6 mois. Si la situation, on vous met parce qu'il y a ces problèmes, on vous met pour régler. Si vous n'avez pas réglé ces problèmes, vous êtes incompétent, on vous relève de votre fonction, on met une autre personne. Sauf que l'administration publique ne peut pas. C'est, tous les pays du monde maintenant se gèrent comme des entreprises. Mm-hmm. C'est ça, on a des critères de performance, on a des critères pour risques, on a même des objectifs à assigner aux fonctionnaires, aux ministres, aux secrétaires généraux, aux chefs d'édition. Tout le monde a des assignations. Mais ce qui se passe chez nous, il n'y a aucune assignation pour les ministres, aucune assignation pour le secrétaire général, aucune assignation pour personne. De telle sorte que pour toutes ces fautes-là qu'on est en train de crier, il n'y a aucun auteur pour ces fautes-là. On trouve qu'il y a des
voilà, fautes. Si vous le permettez, on va conclure avec vous. Le temps d'écouter les deux derniers auditeurs et puis on revient à vous pour la conclusion. Alors Christian, vous êtes à Kinshasa et Dadi également dans la ville-province de Kinshasa. Christian, bonjour.
Oui, bonjour hier et bonjour à l'invité.
Vous avez la parole, Christian.
Merci beaucoup et bon retour à vous.
Merci.
Moi, je pense que cette question relance beaucoup plus la question sur la numérisation de l'administration congolaise dans son ensemble, c'est-à-dire tant au niveau national, au niveau provincial, mais aussi au niveau local avec les AT, parce que cette situation date il y a longtemps. Alors comment solutionner cette question si on n'arrive pas à numériser? Parce que la numérisation permettra justement à l'administration congolaise de maîtriser d'abord l'effectif exact de son personnel administratif sur l'ensemble du territoire. Et cela va également épargner les trésors publics et débourser des sommes faramineuses avec de manière double ou triple. Et donc c'est vraiment l'une des mesures qu'il faudrait prendre. Mais au-delà de ça, il faut également souligner que cette situation, c'est le fait des politiques. Parce que chaque ministre, chaque secrétaire général, lorsqu'il arrive, il cherche des voies et moyens pour placer ses siens en créant un système qu'on appelle une sorte de caste. Et cela va créer une sorte de clan. Et même s'il n'est plus là, ces gens-là vont rester. Et cela va, en quelque sorte, renforcer sa sécurité, tant financière, mais aussi son influence sur l'administration. Rappelez-vous, Gérard Lungembo, il y a eu un certain temps dans ce pays, un premier ministre, Bruno Tshibatshi, pour ne pas les citer, qui, en fait, s'insurgeait même à l'attitude de Vital Kamerhe, qui, en fait, cherchait en tout cas ou influençait d'une manière ou d'une autre les mandataires publics. Allez-y comprendre que les problèmes sont profonds et les solutions, je crois que c'est parmi ce que nous avions cité. Mais au-delà de ça, concernant les doublons, je crois que le mieux serait, si il s'avère qu'il y a des doublons, pourquoi ne pas les laisser seulement avec une seule ou encore un seul service dans un seul service. Cela lui permettrait justement d'éviter cet état des choses. Parce que s'ils sont là, ce n'est pas seulement sur leur fait, c'est parce qu'entre autres, il y a également cette situation salariale des fonctionnaires congolais qui laissent à désirer. Quelqu'un qui touche 100 000 francs, ben, il sera toujours obligé
d'aller mettre la main dans la caisse.
Il faudrait également améliorer les conditions salariales.
Merci beaucoup, Christian. On n'a plus assez de temps.
Afin d'éviter cet état des choses.
On n'a plus assez de temps, alors on va placer juste un mot à Dadi. Dadi, on vous permet de placer juste un mot. Allô, Dadi? Voilà, des petits soucis avec la ligne Dadi. Alors, on conclut avec vous, notre invité, Guy Koukou, intersyndical du Congo. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? Quel est le conseil que vous prodiguez au ministre?
Bon, en conclusion, monsieur le ministre doit prendre son courage à main et prendre des mesures draconiennes. En suspendant toutes les personnes qui ont favorisé, parce que le rôle d'un secrétaire général, c'est faire tout ça, et on devient comme ça. Deuxièmement, il faut, depuis le temps de Mobutu, de Kassavubu, un fonctionnaire ne peut pas rester, un secrétaire général ne peut pas rester en poste à un seul endroit pendant 5 ans, pendant 10 ans, les chefs de division, parce que maintenant, comme quelqu'un venait de le dire, Si lui, on les déplace, mais au moins en bas, il a placé les chefs de division, les chefs de... Et ces gens-là, même si lui partait, il reste dans le système que lui a mis en place. Déplacé, il continue à bénéficier de cette magouille. Il faut qu'on ait les systèmes de faire des mutations aux gens.
Merci
tous les
beaucoup.
Deux ans, tous les trois ans. Comme ça, ça perturbe ceux qui veulent injecter. Quand quelqu'un d'autre vient, il découvre que non, on a injecté quelque chose.
Merci.
Le troisième moment, c'est la décision de pouvoir, comme on a dit, d'informatiser systématiquement
l'administration.
Pas bancariser, parce que dans
la numérisation.
Majorité des cas en province, il n'y a pas de banque. Ça ne sera
merci.
Pas une solution.
Merci beaucoup.
Les fichiers.
On ne sera pas allé plus loin.
Dans des petits coins, s'il y a des fichiers, on peut mettre un système qui communique avec la mémoire centrale pour essayer
merci
de
beaucoup. Merci beaucoup, monsieur qui
et évaluer chaque mois les gens qui sont mis en place avec des assignations.
Merci beaucoup, monsieur Kikoukoukou. Nous rappelons que vous êtes l'intersyndical du Congo et merci à vous tous qui avez participé à cet échange citoyen. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à sa production. On se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.